aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 7 mai 2018, en direct de Washington, Eric Manilakiza, pour commencer les titres. Ouverture à Brazzaville du procès du général Mokoko poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. En Centrafrique, les obsèques des victimes de l'attaque de l'église Fatima ont eu lieu aujourd'hui et hier. Il y a eu de nouveaux remous au quartier PK5 d'Obangui. La voix de l'Amérique et BBC sont interdites d'émettre à Bujumbura.
Tous les matins, j'ai l'habitude d'ouvrir la radio pour suivre les informations, mais pour le moment, j'ai pas d'informations. Je ne suis pas contente de ça. J'aimerais qu'on puisse encore réouvrir ces stations pour continuer à suivre les infos.
La réaction des auditeurs dans le reportage de Christophe Nkurunziza. Le retrait éventuel de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien ne changera rien d'après Téhéran. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont vanté les mérites de cet accord. Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat. Il a dans la foulée nommé une nouvelle fois comme Premier ministre Dmitri Medvedev. Et ne manquez pas notre page des sports ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Je vous le disais dans les titres, le général Jean-Michel Mokoko, muet devant son procès à Brazzaville. L'opposant congolais et ex-candidat à la présidentielle est jugé depuis ce matin pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et détention illégale d'armes et de guerre. Malgré le silence de l'inculpé, le juge a tout de même décidé d'examiner le fond du dossier dès demain mardi. Arsène Séverin à Brazzaville pour le compte-rendu.
Malgré sa stratégie de silence au cours du procès qui vient de s'ouvrir ce lundi matin à Brazzaville, le général Mokoko a tout de même lâché quelques mots pour rejeter toutes les accusations portées contre lui et plaider non coupable. Assez suffisant pour que le tribunal aille au fond du dossier, a plaidé Maître Emmanuel Oko, un des avocats de la partie civile et également représenté les intérêts de l'État dans cette affaire. Cet avocat a estimé que le général ratait là l'occasion que lui donne la justice de son pays pour se justifier sur les charges qui sont retenues contre lui. Même pour Maître Eric Yvon Ibuanga, l'avocat du général Mokoko, il s'agit d'une stratégie qui a bien un sens. L'officier bénéficie en effet d'une immunité et des privilèges de juridiction suite à un décret présidentiel faisant de lui dignitaire de la République. Donc il devrait simplement être libéré, a plaidé l'avocat. Le président de la cour d'appel de Brazzaville, Christian Oba, a décidé d'aller au fond de l'affaire. Silence ou pas, le procès aura bel et bien lieu et dès ce mardi, les premiers scellés seront examinés. Plusieurs journalistes, notamment ceux des médias internationaux, n'ont pas eu accès à ce procès pendant de longues heures. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En RDC, la présidence a démenti toute nouvelle candidature du président Joseph Kabila pour la présidentielle du 23 décembre. Le directeur de cabinet adjoint Jean-Pierre Kambila, qualifié d'intox, une rumeur relayée sur les réseaux sociaux qui affirmait son intention de se représenter. Le porte-parole de la majorité présidentielle, Alain-André Atundu, a également parlé de l'intox. Le dépôt des candidatures à ce scrutin interviendra en juillet selon le calendrier officiel. Toujours en RDC, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les autorités de Kinshasa à lever l'interdiction des manifestations publiques pour garantir les élections crédibles et inclusives en décembre. Monsieur Guterres encourage le gouvernement à favoriser les candidatures de femmes et libérer les fonds pour la Commission électorale nationale indépendante. En RCA, dernier hommage ce matin aux victimes de l'attaque du 1er mai contre l'église catholique de Fatima à Bangui. Alors que l'émotion était à son comble, certains quartiers de la capitale étaient toujours affectés par une nouvelle vague de violence d'hier. Pour VOA Afrique à Bangui, la correspondance est signée Freeman Sipila.
Les larmes aux yeux, les cœurs attristés, l'émotion est grande ce lundi matin en la cathédrale Notre-Dame Immaculée Conception de Bangui. Quatre corps dont celui de l'abbé Albert Tungumale Baba, tous tués dans l'attaque du 1er mai dernier contre l'église catholique de Fatima, sont exposés devant deux milliers de centrafricains, parmi lesquels le chef de l'État Faustin Archange Touadéra. Abbé Tungumale Baba, artisan de la paix, infatigable acteur de la cohésion sociale, repose en paix, pouvait-on entendre parmi la foule. Dans son homélie, l'archevêque de Bangui, cardinal Dieudonné Zappa Layinga, s'est interrogé sur la persistance des violences. Qui sont les instigateurs? S'est-il demandé, déclarant que les adversaires n'ont pas encore gagné la bataille. Les quatre corps sont inhumés au cimetière catholique de Saint-Paul, où un mausolée sera construit en leur mémoire. Par ailleurs, au moins 5 personnes ont été tuées et 15 autres blessées hier dans une nouvelle flambée de violence dans le 3e arrondissement. Des hommes armés du PK5 ont pris d'assaut les quartiers Sarah, Yakité et Castor, chassant les habitants, pillant et incendiant des maisons. Le calme est revenu dans ces secteurs suite à l'intervention des forces de sécurité nationale. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Le nouveau gouvernement gabonais a prêté serment devant le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Il enregistre l'entrée de 3 anciens opposants et compte en tout 7 représentants. Il est responsable uniquement devant le président Ali Bongo. Ce gouvernement intérimaire restera en place jusqu'à la tenue des élections législatives qui devront déboucher sur la formation d'un autre gouvernement. La date de ces législatives reste inconnue. De nouvelles violences ont éclaté dans le nord du Nigeria et ont fait 45 morts au cours de violences entre gangs de voleurs de bétail et population. Grève illimitée des médecins en Mauritanie, ils réclament des augmentations de salaire et une amélioration des conditions de travail dans les hôpitaux. Un médecin spécialiste touche 560 euros environ. En plus de la vétusté des équipements, le secteur médical souffre d'une large diffusion de médicaments contrefaits. 6 millions de Burkinabés sont ou seront en situation de difficulté alimentaire en 2018 dans la moitié des provinces du pays. Ces chiffres représentent un tiers de la population. Cette situation est liée à un déficit des céréales qui affecte 22 des 45 provinces du pays. Au Mali, une coalition de près de 70 partis a investi hier dimanche à Bamako le président sortant Ibrahima Bakar Keïta, candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet. Un Guinéen a tué de nombreux blessés dans des heurts qui ont éclaté hier lors du passage d'un cortège de mariage de Maliens en territoire guinéen.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis vont apporter sur un an une aide de 140 millions de dollars à la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'épidémie de sida. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a apporté un soutien total à Gina Hasper, qu'il a nommée à la tête de la CIA. Elle est source d'une vive polémique pour avoir joué un rôle controversé dans des programmes de torture. Vladimir Poutine a prêté serment pour son 4e mandat à la présidence de la Russie. Après 18 ans au pouvoir, il sera à la tête du pays jusqu'en 2024 et a une nouvelle fois proposé Dmitri Medvedev comme premier ministre. Le point avec Marie Benson.
Après avoir prêté serment, Vladimir Poutine a encore une fois proposé Dmitri Medvedev comme premier ministre. Le président russe a promis de réduire les dépenses militaires pour se focaliser sur l'amélioration de la qualité de vie, de la sécurité et de la santé de ses citoyens. La commission électorale a affirmé que les élections ont été transparentes, mais il y a eu de nombreuses manifestations anti-Poutine samedi dans toute la Russie. Environ 1600 personnes ont été arrêtées. Monsieur Poutine devrait désormais rester à la tête de la Russie jusqu'en 2024. Ensuite, il devra trouver un successeur. En 2016, le gouvernement russe a été accusé d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine. Cette année, Londres a accusé Moscou d'avoir empoisonné un ex-agent double russe sur le sol anglais.
Et le président américain doit annoncer cette semaine sa décision sur l'accord nucléaire iranien. Mais Téhéran avertit que les États-Unis regretteraient leur éventuel retrait du texte. Le point avec Raïssa Girondin.
Si les États-Unis quittent l'accord nucléaire, vous verrez bientôt qu'ils le regretteront comme jamais dans l'histoire, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani lors d'un discours à la télévision publique. Dans l'accord, l'Iran déclare solennellement ne pas chercher à se doter de la bombe atomique. En échange, Téhéran a obtenu la levée progressive et temporaire des sanctions internationales. De son côté, le président français Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité à ses yeux de compléter l'accord afin d'éviter une escalade dans l'ensemble du Moyen-Orient. Le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson est en visite de 2 jours à Washington. La question iranienne sera au centre de sa rencontre avec le vice-président Mike Pence. La semaine dernière, Boris Johnson avait estimé qu'il fallait maintenir l'accord tout en le développant afin de tenir compte des préoccupations légitimes. Le président Trump reproche au texte signé en 2015 par l'Iran et 6 autres pays de ne pas fournir suffisamment de garanties que Téhéran ne se doterait pas de l'arme nucléaire après 2025, date d'expiration de l'accord.
Raïssa Girondin, au Liban, le Hezbollah, mouvement chiite, s'est réjoui d'une grande victoire aux élections législatives, les premières organisées en près d'une décennie dans le pays. Le chef de ce mouvement, Hassan Nasrallah, n'a pas toutefois donné le nombre de sièges remportés par son parti et ses alliés. Au Yémen, au moins 6 personnes ont été tuées et 30 blessées dans 2 frappes aériennes successives sur les bureaux de la présidence yéménite. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco signée John Lyndon.
Au Togo, les investisseurs retrouvent de l'appétit pour les bons des trésors. Selon le magazine Financial Afrique, le Togo a mobilisé vendredi un montant global de 24,7 milliards de francs CFA contre 20 milliards sollicités par le biais d'une émission par adjudication de bons du trésor, soit un taux de couverture de 123,7%. Au Sénégal, Grofin compte apporter sa touche pour l'innovation financière dans les PME. Spécialisée dans le financement des petites et moyennes entreprises, l'entreprise qui a ouvert son bureau à Dakar la semaine dernière, après celui déjà opérationnel en Côte d'Ivoire, a dévoilé un plan d'action. Djibril Maket Mbengue, son directeur, a indiqué que sa priorité demeure le financement des PME au Sénégal, qui constitue l'essentiel du tissu économique du pays, avec un chiffre d'affaires de plus de 11 milliards de francs CFA.
Et après l'économie, nous passons au sport avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nico.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec le football. Le Barça reconnaît des contacts avec Griezmann.
Oui, le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, qui reconnaît avoir eu en octobre dernier des contacts avec l'entourage d'Antoine Griezmann, alors que la presse espagnole évoque un possible recrutement de la star de l'Atlético Madrid cet été. À 27 ans, Griezmann a souvent répété qu'il voulait désormais soulever des trophées, mettant cet aspect dans la balance pour entretenir l'hypothèse d'un départ de l'Atlético, son club depuis 2014. Le leader de l'attaque de l'équipe de France a d'ailleurs assuré qu'il trancherait son avenir avant la Coupe du Monde.
À Berlin, nous sommes en Allemagne. Nicolas Ribéry prolonge son contrat.
Oui, l'attaquant Franck Ribéry qui a signé pour une nouvelle saison au Bayern Munich jusqu'en juin 2019. Annonce du club bavarois, tout juste sacré champion d'Allemagne, dans lequel le Français de 35 ans évolue depuis 11 ans. Le comparse de Ribéry, l'autre vétéran Arjen Robben, devrait lui aussi rester un an de plus en Bavière.
Et au retour sur les résultats de la première journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération.
La SEC d'Abidjan vainqueur 1-0 des Ghanéens d'Adouana Star profite du nul entre le Raja de Casablanca et la AS Vita Club pour prendre la tête du groupe A. Dans la poule B, Al Masry et Berkane partagent la première place suite à leurs victoires respectives contre l'US Sonko et Al Hilal. Williamsville s'impose 1-0 au Cara de Brazzaville. Le second match du groupe C a vu Enimba battre le Djoliba de Bamako sur le score de 2-0. Et puis l'USM Alger est le seul leader du groupe D. Le club algérien a battu 4-0 les Tanzaniens des Young Africans.
Football toujours, Nicolas, avec le tournoi UFOA des moins de 20 ans. La Gambie remporte le trophée.
Les jeunes Scorpions ont battu en finale le pays organisateur de cette édition, le Liberia, 2-1. La Gambie enlève donc la première édition de cette compétition organisée dans la zone A de l'UFOA. Pour être complet, le Mali termine 3e suite à sa victoire 1-0 face à la Côte d'Ivoire.
Enfin, la NBA, championnat de basket nord-américain.
La finale rêvée de la conférence Ouest entre Golden State et Houston est très proche. Les Warriors et les Rockets n'ont plus besoin que d'une victoire après leur démonstration hier à la Nouvelle-Orléans et à Salt Lake City. Le champion en titre Golden State a dominé la Nouvelle-Orléans 118-92 et n'a jamais été inquiété par les Pelicans. Et puis Houston a vécu un dimanche relativement paisible. James Harden et ses coéquipiers ont décroché leur 3e victoire en 4 matchs dans la salle de Utah sur le score sans appel de 100-87.
C'était les sports de Nicolas Pinault. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Banirakiza. Nous passons maintenant à vos dossiers du jour. Première destination, le pays des hommes intègres. Retour ce soir sur le congrès du CDP, le congrès pour la démocratie et le progrès d'ex-parti au pouvoir au Burkina Faso. À l'issue de 2 jours de travaux, le parti a élu Eddy Komboigo comme le nouveau président du CDP. Et Blaise Compaoré, l'ex-président du pays, a été désigné comme président d'honneur de son parti. Ce congrès a-t-il enterré les querelles de leadership au sein du CDP? Bagassikoura a posé la question à Siaka Koulibaly, analyste politique à Ouagadougou.
On ne peut pas affirmer cela pour le moment, dans la mesure où, à l'issue du congrès, on a vu à la clôture qu'une partie des anciens, ceux qu'on appelle les anciens dirigeants, étaient sortis de la salle en vue de manifestation de leur comme pour manifester leur désaccord de l'élection du Congo. La querelle n'est pas close et que le premier chantier du nouveau président sera de travailler sur ce dossier-là.
Et qu'est-ce qui fait qu'on a finalement choisi Eddy Komboigo? Quelles étaient ses forces?
Je pense que le fait d'avoir été le président du parti pour les 2 dernières années et aussi la victoire d'Eddy Komboigo peut aussi s'interpréter comme un des effets du changement générationnel auquel on assiste dans la classe politique du Burkina Faso à l'heure actuelle.
Est-ce que c'était le candidat de Blaise Compaoré?
Je pense qu'on ne peut pas le dire ouvertement dans la mesure où avant le congrès, il a tenu par médias interposés à exprimer sa neutralité vis-à-vis donc de cette question précise en disant qu'il n'était ni pour Pierre ni pour Paul.
Alors, le congrès est revenu sur le cas Blaise Compaoré, qui a été fait président d'honneur du parti, garant de l'unité au sein du parti. Pourquoi est-ce que vous pensez que le CDP pense nécessaire de revenir vers l'ancien président qui a été chassé du pouvoir?
Moi, je crois que le CDP, n'a jamais pu se départir de la tutelle de Blaise Compaoré, étant donné les liens historiques qui les unissent. Il est celui qui a suscité le CDP pour pouvoir conduire sa politique durant tout le temps où il a été au pouvoir. Il est celui qui a animé, peut-être par personne interposée, la vie de ce parti. Donc les gens du parti lui restent redevables de ce point de vue-là. Ensuite, il n'y a que le vent de contestation qui soufflait contre Blaise Compaoré après. Après surtout le soulèvement populaire d'octobre 2014, il y a comme un retour en grâce de l'ancien président, et notamment au niveau de certains milieux de l'économie informelle et aussi du milieu rural, où les gens tendent à regretter quelque peu la période Blaise Compaoré, qu'ils considèrent comme étant beaucoup moins chaotique qu'en est aujourd'hui la situation économique et sécuritaire. Donc, en surfant sur ce vent de retour en amour à Blaise Compaoré qu'une partie de la population exprime, et le CDP donc pense jouer une carte gagnante en s'attachant l'image donc de Blaise Compaoré.
Siaka Koulibaly, analyste politique, joint à Ouagadougou.
Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ex-parti au pouvoir, a élu dimanche l'ex-président Blaise Compaoré, président d'honneur du parti. Ce dernier avait été renversé par la rue en 2014 après 27 ans au pouvoir et vit aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire. Que pensez-vous de cette nomination? Doit-on s'attendre à un retour de l'ancien chef d'État au Burkina Faso? Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 pour donner votre avis.
Et le président Blaise Compaoré détient la nationalité ivoirienne. Nous restons dans le Sahel. Au Mali, et suite à des conflits intercommunautaires, une centaine de personnes ont fui les combats dans le centre du pays. Toutes originaires du cercle de Koro, région de Mopti, ces personnes déplacées ont été accueillies à Bamako grâce à la solidarité des amis de la culture Peul. Appel a été lancé aux autorités lors d'une conférence de presse pour qu'elles trouvent une solution définitive à ces combats de Bamako. Un reportage sur place signé Kassim Traoré.
Djalakorobougou, banlieue bamakoise, est dans une maison inachevée que les 38 enfants, 24 femmes et 19 hommes rescapés des conflits de Koro sont logés. Dans la vaste cour, il y a une bâche installée, une chambre réservée à la vieille de 70 ans secouée par le voyage. Dans une autre, il y a une jeune dame qui est sous sérum. Malado Sissé, assise dans la cour, épulche les oignons, mais se rappelle de son calvaire. Ce sont les donceaux qui sont venus attaquer nos quatre villages. Il y a eu des morts. Nous avons perdu nos hommes et des biens. Les chasseurs traditionnels ont aussi mis le feu à nos cases. C'est pour cela que nous avons été obligés de vendre des chèvres à 1500 francs et des bœufs à 5000 francs pour venir à Bamako. Les nouveaux locataires de la famille Badi Djalakorobougou n'ont rien oublié des différentes attaques qui ont occasionné leur départ. Maïmouna Diko, déplacé. C'est notre chef de village qui a été tué, ainsi que trois autres personnes. Nos céréales, nos vivres et nos bétails et nos animaux ont été aussi tués et conduits vers d'autres horizons. C'est pour cela que nous avons fui pour venir à Bamako en attendant que le calme revienne. Ces personnes ont fui les attaques des groupes armés menées contre leur village. Professeur Aliou Ndiaye, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali.
Il faut arrêter la possibilité donnée à certains de rentrer dans des maisons, de sortir les citoyens et de les exiger. Ça, il faut arrêter ça. Il faut arrêter le fait que certains on leur interdit d'être à moto. On va juste dans leur maison, on prend leur moto, on les brûle sur la place publique et d'autres se promènent gaillardement à moto, l'arme sur l'épaule. Ce sont ces injustices que la communauté peut ne croire pas. Il nous faut un État juste et impartial. Pourtant, c'est ce que disait Ibekar quand il est arrivé au pouvoir. Hein.
La communauté peut, à travers l'association des amis de la culture Peul, ne veulent plus croiser les bras face à ces conflits. Abdul Aziz Diallo, président de l'association Tabital Poulako.
Nous sommes en train de les apaiser sur le plan psychologique, sur le plan moral, mais notre objectif à terme, c'est de les retourner dans les villages, de réunir toutes les conditions pour qu'ils puissent rejoindre leur village et reprendre leurs activités. Parce que on est en train de s'organiser pour ça. Nous avons mis une commission en place qui est en train de faire le diagnostic pour voir. De toutes les façons, l'endroit où ils logent, ce n'est pas un endroit idéal. Nous allons dénoncer et nous allons nous défendre.
Tout au long de la rencontre avec les journalistes, la confrérie des donceaux chasseurs traditionnels a été accusée d'exactions contre des civils. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez branchés 24h/24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Le Cameroun lutte contre la prolifération des armes tout en faisant face à deux insurrections en cette année électorale. Les militaires camerounais ont découvert une importante cache d'armes dans un entrepôt à Aoué, près de la capitale. Cette découverte alimente toutes les discussions, d'autant plus que le pays doit tenir cette année une élection présidentielle. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, rendu par Lionel Gahima.
Les militaires camerounais ont effectué le 30 avril un raid sur un entrepôt. Des habitants avaient signalé des mouvements suspects. L'adjudant-chef Patrice Bella a dirigé l'opération.
Notre conteneur a été attaqué sur la plateforme par des personnes inconnues. Voilà comment naît la mission et voir le succès que vous avez constaté.
À l'intérieur du magasin, les soldats ont découvert plus de 10 000 munitions, des explosifs, des fusils et des couteaux. Toutes les personnes arrêtées sont de nationalité camerounaise. La découverte de cette cache d'armes a suscité beaucoup d'inquiétudes car Aoué est à quelques 55 000 km de Yaoundé, la capitale. La ville accueille une école internationale militaire appelée EUFOR, qui forment les militaires africains aux techniques de maintien de la paix. Les officiels camerounais soupçonnent des armes venues d'un pays voisin comme le Nigeria, mais les habitants se demandent comment ces armes ont pu passer la frontière de tous les postes de police et de gendarmerie sans être repérées. En tout cas, cette découverte alimente de chaudes discussions. Joseph Mbida est ingénieur du génie civil.
Lorsque quelqu'un a les munitions et les armes, ce qu'il a en projet. Lorsque vous convoquez le quartier Aoué, c'est à la sortie est de la ville de Yaoundé. Si on porte les munitions à Aoué, vers où ira-t-on? L'équation la plus simple serait de revenir à Yaoundé. Puisque c'est une question républicaine, je dois dire que je suis inquiet. Je veux croire que ces gens-là vont être rapidement retrouvés et que les munitions vont être remises là où elles doivent être.
Le Cameroun doit tenir en octobre des élections présidentielles, législatives et municipales. Dans le même temps, l'extrême nord du pays subit des attaques répétées de Boko Haram, pendant que les deux régions anglophones, les rebelles séparatistes, demandent l'indépendance. Le mois dernier, le gouvernement a interdit toute vente légale d'armes à des civils. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a affirmé pendant une réunion sur la sécurité à Yaoundé qu'il y avait près de 30 000 armes de guerre et armes légères en circulation au Cameroun.
Ça a atteint des proportions inquiétantes et représente une réelle menace à l'ordre public. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les gens louent les armes et munitions pour aller braquer. Il y a plus de 27 000 armes et munitions en circulation.
Regarde le contexte sécuritaire actuel dans notre pays. Le gouvernement n'avait pas de choix que de prendre ses responsabilités en procédant à la fermeture à titre conservatoire de toutes les armureries installées dans certaines régions et bientôt dans tout le pays.
Une loi adoptée en 2016 punit de 5 à 10 ans de prison toute possession illégale d'armes. Mais la possession illégale d'armes est jugée par un tribunal militaire qui peut condamner à la prison à perpétuité si la personne jugée avait l'intention de troubler la paix et l'ordre public.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Destination maintenant dans les Grands Lacs, au cœur de l'Afrique, précisément au pays des mines et une colline. Dès ce lundi, les radios VOA Afrique et BBC n'émettent plus au Burundi sur décision du Conseil national de la communication. Christophe Ngondiza a rencontré certains auditeurs dans les rues de la capitale. Suivez sa correspondance.
Nadège Douce, 38 ans, est une femme mariée et mère de 3 enfants. Depuis plus d'une dizaine d'années, elle écoute régulièrement VOA Afrique. Ce matin, elle s'est réveillée pour être au fait de l'actualité, mais se dit déçue. Témoignage.
J'ai été vraiment désolée parce que tous les matins, j'ai l'habitude d'ouvrir la radio pour suivre les informations. Mais pour le moment, j'ai pas d'informations. Je ne suis pas contente de ça. J'aimerais qu'on puisse encore réouvrir ces stations pour continuer à suivre les infos. Elles sont très bénéfiques parce que on suit les informations du pays en même temps les informations internationales.
Même constat pour ce jeune de 28 ans qui étudie à l'Université du Burundi mais qui a requis l'anonymat.
Je crois que le gouvernement en place veut peut-être que nous ne sachions pas ou veut peut-être cacher de l'information, surtout de l'opposition. On n'a pas vraiment des informations provenant de l'opposition. Si je dis opposition, je dis opposition en exil surtout. Mais on veut savoir aussi de nos frères de l'extérieur du pays.
Ce journaliste de la radio Isanganiro qui a été mis en garde estime que la peur présente chez la plupart des Burundais va aller crescendo jusqu'au référendum constitutionnel.
Bon, ce sont des radios qui nous inspirent, des radios qui ont quelquefois des bonnes émissions, qui nous informent, donc qui nous complètent. Voilà, on n'a plus de compléments, on se demande ce qui va se passer après, on se dit ça sera à notre tour. C'est ça le sentiment qui tourne tout le temps dans nos têtes. On se dit qu'est-ce qui va se passer après.
Malgré la fermeture de ces radios, la campagne qui va consacrer les 8, selon des sources indépendantes, bat son plein. 15 partisans du parti Front National de Libération de l'ancien rebelle Agathon Rwasa ont été incarcérés, selon le président du groupe parlementaire Amizero ya Barundi, Pierre Célestin Dikoumana.
Nous avions l'espoir. Au début, quand nous avons ouvert la campagne à Ngozi, il y avait quand même un signe d'espoir parce qu'on avait tenu cette campagne. Presque partout, on a entendu déjà des intimidations, mais aussi des messages. Je vous donnerai l'exemple d'hier. On a arrêté 15 personnes dans la commune Mutambu et ces personnes ont été arrêtées au vu et au su de l'administration.
Mais le porte-parole de la police affirme que personne n'a été arrêté, Pierre Mourikié.
C'est un mensonge. Comment est-ce qu'on peut arrêter des gens qui sont en train de battre campagne alors que c'est le moment de battre campagne, alors que cette même coalition est autorisée à battre campagne? Plutôt, les informations que détient le ministère de la Sécurité publique et de la gestion des catastrophes révèlent que cette coalition est en train de battre campagne dans le pays et en toute sécurité.
Il est à rappeler que Léon Sengendakumana, vice-président du parti Frodebu, Front pour la démocratie au Burundi, a indiqué à VOA Afrique appris que la campagne se déroule normalement. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. La vie vous accorde une seconde chance qui s'appelle demain. À très bientôt. VOA Afrique.